MC Sniper. Soundboy check la vibe, allume ton lighter. Hip hop dans les veines et dans le sang. Contenu dans les lyrics 100%.
Hip hop de banane, c'est pas pour les titres. Ici on meurt un homme, pas pour un petit flop. Mais qui stoppe le vrai hip hop, c'est ni la soupe ni la pop. Qui stoppe pour le hip hop? Les MC kick non-stop, non-stop. À la foutre d'être dans le top, les classiques font des hold-up. La tête froide, cold, je suis un ancien, je suis holder. Lyrics plein les folders, y'a de la couche et de l'odeur. Remballe tes Lamborghini, tes meufs en bikini, pleine de guili-guili, c'est leur co et à foire sans gimmick. Comme au loup penny, même sans penny, ouais, ça kick sans limite. Tu niquais le flow, fly, la passion, le vice en limite.
Choisis la hype, MC sniper. Soundboy check, la vibe, allume ton lighter. Hip hop dans les veines et dans le sang, contenu dans les lyrics 100%. Hip hop, on a pas choisi la hype, MC sniper. Soundboy check, la vibe allume ton lighter. Hip hop dans les veines et dans le sang, contenu dans les lyrics 100%.
MC's out there better develop a new thesis. After this here, I got 10 more to squash them like peaches. I feel them trying to suck my blood like leeches. Trying to give me their diseases, but I don't need this. Face motherfuckers wanna see me paraplegic. When you read the interviews, you would think that they mean it. I put their head on the shelf. I pledge allegiance to my hip hop and myself. Fuck everything else. I make it rain with lyrical head cracks. Now what's that? Twos of new era MCs who own the track. Fake niggas on the same line could bust back. And if they would, let them know I want my throne back. Yeah, Mike Tyson who's striking like lightning. Full up a mic when I conquer like Vikings. Yeah, drop lyrics of grandeur. One more time, let me know I give it up.
On a pas, choisis la hype, MC sniper. Soundboy check, la vibe, allume ton lighter. Hip hop dans les veines et dans le sang. Contenu dans les lyrics 100%. Hip hop, on a pas, choisis la hype, MC sniper. Soundboy check, la vibe, allume ton lighter. Hip hop dans les veines et dans le sang. Contenu dans les lyrics 100%. Fureel.
Yeah, Fureel. Lord Co City, lyrics fly.
Percoy, Parfroy, N-A-N, Rodage, GF, Flyman.
Bon écoute, là l'histoire est triste, de la lipo la crise. Ton confi est belé, ton belé limé, wapi Christou. Potoli, Congo, pas bijou, Zoba, poignino, pesilita, ma pose, bisou. Et le conigne, zo, salayo, moi, n'a pas qu'à téléma, putain de merde, salayo. Fuck les mythos et les paraboles, la souffrance à la peau nous colle, la jeunesse en a ras-le-bol. Et si tu as le son de la situation, c'est le retournement, tu sais, quand ils volent, ils appellent ça ici un détournement. Triste nouvelle du ministère de la justice, interdiction, contradiction comme tradition. Est-ce que c'est juste fils? Et derrière, paraît-il que ça compte l'addition. Rap comme forme d'expression culturelle. Mais qui tu es, l'unique de carte du freestyle, qui tu es? Berzer, partage si tu aimes. Et si t'as la rage, passage, non mais faut que tu freines. Avance au bas bord, faute à l'état. Polo, biolo, bate, kezali, faute, y'a l'état.
Mr. Chaser, rodage des halls. Ultimatum, bon mon combat cry. Yeah. J'fais une compile de nuit blanche, faut pas rêver, mec. H24 sur le corner comme un réverbère. La voisine du dessus rapporte nos faits et gestes. Charme du guet, c'était la S en VHS. J'les ai choqués à peine ado. Matin short et Javé, le soir showcase à Monaco. J'ai remercié ceux qui m'appréciaient sur un disque. Pote d'enfance coincé au bled, m'ont revu à Bercy sur la 6. Fuck les rêves, Wakanda, j'vois ça comme des paliers. J'dis des 16 en détail, j'remplis tonnes de cahiers. Faut quitter la cahier, pas rester à se les cahier. On était cons dès qu'il y avait les cons et on détalait. Et ton père comment...
Pas de refuge ni d'accueil, mais des barbelés. Même un semblant de deuil descend.
Ciao, bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire pour déployer le chiffon et conclure notre trilogie sur le phénomène sportif et les dessous des Jeux Olympiques. À contre-pied ce matin, cessons les petites foulées, délaçons les baskets, retirons brassières et chasubles de sport et asseyons-nous un instant pour une météo du corps. Comment se sent-il ce matin ? Si c'est obscur pour vous, cela le sera moins en fin d'émission. Présenter un invité par son nom et sa qualité est bon pour le JT de 20h. Nous allons commencer différemment aujourd'hui. L'une de nos deux convives a fondé une compagnie de danse qui anime notamment des ateliers pour réussir la défiscalisation des revenus locatifs de sa résidence secondaire. Non, allez, loin s'en faut, point de blague. Vous commencez à connaître le concept et donc, cher auditeur à l'œil encore mi-clos, la petite question impromptue du samedi matin m'a été soufflée cette fois-ci par l'action de notre invité. Vous êtes-vous déjà senti fleuve, rivière ou goutte de pluie? Ou encore peut-être océan déchaîné ou petite flaque qui disparaîtra inexorablement au soleil de printemps? Eh bien justement, la compagnie de notre invité propose un atelier parcours sensible qui aidera à répondre à ces questions. Elle le décrit ainsi. Ensemble, toucher, respirer, se mettre en mouvement. À travers des parcours sensibles dans lesquels chacun et chacune a voir, à agir et surtout à ressentir, nous souhaitons faire partager des situations essentielles liées à l'eau. Les interventions artistiques, poétiques et militantes prendront les formes qui s'adaptent à chaque situation. Environnement naturel ou urbain, proximité de l'eau, participation du public, dans un espace clos ou en cheminant. Alors, l'esprit le plus pragmatique ne pourra pas nier que le corps humain est composé de 65% d'eau. Un atelier loin d'être aussi ésotérique qu'il n'y paraît. Et la troupe de danse qu'elle a cofondée achève sa profession de foi par cette invitation que je ne pouvais pas m'abstenir de partager en ce samedi matin. Je cite « Dans une société où le corps est un objet de consommation, nous voudrions faire partager la danse, cette anti-économie du corps, cette anti-productivité, ce luxe nécessaire pour s'aimer vivre, pour s'aimer et vivre. Une belle invitation pour un début de week-end, puisse-t-elle irriguer une semaine, un mois, voire toute une existence. Ne nous remerciez pas, remerciez Le Chiffon, le journal indépendant de Paris et sa banlieue, qui nous rassemble ce matin et dont le dernier numéro sur la critique de l'idéologie du sport et les Jeux Olympiques est toujours disponible dans une liste de lieux amis que vous retrouverez sur lechiffon.fr. Notre journal se veut porter sur une actu autant plus long, une actu au bain-marie pour filer la métaphore aquatique, qui peut se relire bien après sa parution pour tempérer les louanges de tous les thuriféraires de l'événement olympique qui s'annonce et dont on va nous rebattre les oreilles. Alors après ces quelques atermoiements nécessaires, voici donc enfin notre première invitée, haute en couleurs, Séverine Delbosque, fondatrice de la compagnie de danse Les Soreuses, dont je vous livrerai la fin de la profession de foi, également élue municipale de Saint-Denis. Vous êtes formée à la danse contemporaine et au buto notamment, vous nous expliquerez dans quelques instants. Vous êtes professeure d'éducation civique et docteur en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et vous êtes enfin chercheuse sur le concept d'énergie en danse contemporaine. Et à mes côtés également, à ma droite, Achille, un chiffonnier qui est auteur de l'article sur les Olympiades culturelles au service de la communication olympique. Alors je vous remercie à tous les deux d'être là, d'avoir surmonté les problèmes techniques et autres. Est-ce que vous pouvez compléter cette présentation succincte, peut-être à Chile avec qui j'ai le moins d'informations?
Oui, bien sûr. Et ben moi c'est je suis jeune chiffonnier donc là depuis quelques mois seulement, mais c'est du coup une première collaboration, premier article dans Le Chiffon et très content du coup de pouvoir participer à cette grande, ce travail de critique et de réflexion sur les enjeux et ce qui se passe en Ile-de-France.
Séverine, vous voulez compléter?
Bonjour, je suis assez d'accord avec votre présentation. Amusée, étonnée que vous ayez trouvé autant d'éléments disparates. Je pense que je suis quelqu'un d'assez ici et nulle part, en fait, qui correspondent quand même aussi à des périodes un peu différentes de ma vie. Juste une petite correction, je suis conseillère municipale, pas à Saint-Denis. mais à Lille-Saint-Denis. Je ne sais pas si vous n'avez pas dit Saint-Denis.
J'ai peut-être dit Saint-Denis.
Donc voilà, donc Lille-Saint-Denis, c'est plus petit, une île petite par sa taille, mais grande. Bon, déjà, c'est une île, donc on y voit quelques rapprochements avec les éléments qui parlent de l'eau, en fait, par rapport à la danse. C'est vrai que la proximité de l'eau, c'est quelque chose qui m'est cher, qui nous est cher en ce moment entre Essoreuse. Et voilà, donc aussi professeur d'éducation physique, aussi, voilà, c'est l'emploi que j'ai depuis un certain temps.
Alors, je vous remercie. Alors, nous allons commencer avec l'article d'Achillée, non pas Achillée. Ma très grande faute. Nous avons un biais dans cette émission, celle du journal qui nous fait nous réunir et notre trimestriel d'hiver a pour thème les Jeux Olympiques. Donc, après Marc Perelman, critique de l'idéologie du sport, et Adèle Chiffonnière, reporter, concluons donc ce triptyque autour de la flamme olympique. Avec son corollaire, l'Olympiade de la culture, qui fait l'objet d'un article dont vous venez nous présenter votre travail. Et pour conclure, notre second invité proposera une réflexion de fond sur le corps et autant d'eau au moulin de la critique d'un fait total et incontestable. Je vous ramène à notre émission d'il y a 2 mois. Avec une centaine d'événements culturels et artistiques qui se succéderont dans tous les pays jusqu'au mois de septembre 2024, le comité d'organisation des Jeux déclare vouloir, ouvrez les guillemets, montrer que sport et culture ont beaucoup de valeurs en commun. Le goût de la performance et l'excellence, le dialogue des cultures, mais aussi le partage et l'humain au centre de tout. Alors, nous recevions l'auteur d'un article sur les conditions de travail des sans-papiers le mois dernier. Je n'en dirai pas plus, mais donc, acquis par le prisme de votre travail, on reviendra à votre article dans un instant. Mais est-ce que vous avez une première réaction à cette belle déclaration?
Bah, c'est typiquement du 100% Jeux Olympiques, enfin, de la communication des Jeux Olympiques avec beaucoup d'emphase. Tout doit être tout le temps merveilleux, absolument parfait. Sauf qu'on gratte un peu le vernis, qu'on se rend compte que, au final, derrière, il y a d'autres choses à voir et d'autres choses qui se jouent, et notamment sur la culture, effectivement.
Un premier fait saillant, comme ça, de votre enquête, qui vous viendrait en tête
Un fait saillant, bah, par exemple, quelque chose qui est à noter, sur les budgets notamment qui sont alloués sur cette dimension culturelle, puisqu'on veut en fait créer un véritable programme culturel qui prendrait place du coup 4 ans avant les Jeux Olympiques, durant ces Olympiades culturelles, et en fait il est totalement ridicule par rapport au budget global des Jeux Olympiques. Et en fait, il y a quand même déjà de base, en regardant au premier regard un peu ce dispositif, on remarque tout de suite que, en fait, le budget est totalement déséquilibré, ce qui est mis sur la culture, qui doit être un peu le centre de cette fête populaire des Jeux Olympiques, au-delà du sport, est très faible. En fait, on met... Enfin, le budget était de 20 millions environ, alors que rien que la cérémonie d'ouverture est à plus de 160 millions d'euros. Donc il y a déjà un ordre de comparaison qui est assez flagrant et assez marquant, je trouve.
Et vous évoquiez aussi le fait que les grandes institutions publiques doivent prendre sur leur budget propre pour remplir le cahier des charges olympiques, et bien sûr les petits acteurs.
C'est ça, et effectivement, du coup, quand on rentre un peu dans l'analyse plus concrètement de comment comment est mis en œuvre ce programme culturel, sur quel argent, à partir de quel financement, etc. Et on cherche un peu mieux à comprendre ça. En fait, on se rend compte que globalement, cet argent, c'est les institutions culturelles qui existent déjà qui le mettent sur la table. Que globalement, le COJOP, donc j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est autour de... D'ailleurs, c'est des chiffres qui sont assez difficiles à avoir, en fait, qui sont jamais donnés de manière très claire. La Cour des comptes a fait un rapport dessus, mais sans que ça soit donné de manière très claire par les organisateurs des JO. Mais il y a à peu près 12 millions d'euros qui ont été mis par le COJOP, 9 millions par la culture et...
Le comité d'organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est ça, et la mairie de Paris, du coup, qui a rajouté aussi 6 millions d'euros pour organiser ses propres Olympiades culturelles. Mais En fait, ce que dit même Dominique Hervieux elle-même, c'est que dans une interview qui est citée dans l'article, c'est que si ces institutions-là n'avaient pas mis de l'argent elles-mêmes, de la part en prix sur leur propre budget, en fait, pour financer ces projets, probablement il ne serait rien passé, en tout cas d'assez symbolique et de fort sur la question des Olympiades culturelles. Et donc, en fait, on cherche à créer un programme, monter une espèce de grande épopée artistique autour de plein d'événements, mais qui sont au final très disparates, qui sont pas reliés les uns aux autres, sur lesquels il n'y a pas vraiment de budget concret. Donc voilà, déjà, de base, le projet paraît un peu faible par rapport à ce qui est énoncé, en tout cas quand on regarde toute la communication qui est faite au niveau du comité d'organisation.
Projet disparate, ça me fait penser à l'introduction de votre article, Zidane à la Philharmonie, pourquoi, pour qui ?
C'est ça. Après, on peut se demander effectivement aussi. Alors, il y a l'intérêt qu'on peut voir de prime abord de faire entrer des publics qui sont potentiellement éloignés de ces dispositifs et des institutions culturelles. Mais au final, on se rend compte que globalement, c'est souvent très tourné seulement autour du sport et que l'ouverture artistique est assez faible. Là, sur ce, voilà, donc c'est l'introduction de l'article qui parlait de ce grand projet autour de Zidane qui se tient à la Philharmonie de Paris, qui montre du coup pendant je sais pas combien de temps ça se tient exactement, mais un match de football, enfin de Zidane, sur 17 écrans différents, et c'est un documentaire qui a été pris dans les années 2000 et au final qui ne montre que Zidane sous toutes les coutures, en train de courir, en train de marcher, en train de s'essouffler, en train d'exulter, etc. Et donc du coup il y a quand même une sorte de pipolisation, de mise en avant d'une personne. Enfin, on se demande un peu quel est le sens de tout cette mise en scène. Enfin, qu'est-ce qu'on cherche derrière? Est-ce qu'on cherche vraiment à faire réfléchir les gens autour du sport, de la culture, etc. Ou c'est juste un projet culturel qui cherche à starifier une personne qui l'est déjà de fait?
D'accord, nous y reviendrons dans un petit instant. Je me tourne vers vous, Séverine, pour vous faire réagir sur la belle citation d'il y a deux minutes. Avant que vous ne nous présentiez plus en détail votre compagnie, une réaction au dialogue entre sport et art. Est-ce que, dans quelle catégorie vous rangez la danse ?
Bah alors oui... Il y a quand même une injonction pour les structures culturelles à faire des projets en lien, si ce n'est au JO, en tout cas au sport. S'il y a de l'argent qui est mis là-dedans, il y en a moins pour les autres artistes qui n'ont pas forcément envie, qui ne voient pas avoir forcément d'intérêt de travailler sur le sport. Après, comme tout inducteur, comme toute thématique, on peut faire des... Parfois, c'est parfois raté, il se peut que ça marche, des chouettes projets. J'ai assisté à un travail, c'est à la fois du théâtre et du chant sur les hymnes olympiques. Au début, je me disais, franchement, j'avais pas trop envie d'aller voir ça. C'était rigolo parce que ça se passait sur un bateau. Et en fait, c'était très sympa parce que les hymnes, ils ont été chercher des hymnes, pas God Save the Queen ou des choses comme ça, avec des rythmes un peu différents. Puis surtout, ils les avaient beaucoup transformés. Donc quand on transforme, on peut toujours faire des choses sympas. Après, je me dis, Le problème, c'est que quand on accepte finalement une injonction qui est pas du libre arbitre, parce que normalement un artiste c'est quelqu'un qui est autonome, qui a pas besoin qu'on lui dicte des choses, qu'il y ait des injonctions sur quoi il va travailler. C'est ce qui va faire perdurer aussi un petit peu le système. Je fais le parallèle avec certaines communes, mais puis voilà, l'Île-Saint-Denis, c'est le cas puisqu'elle accueille le village olympique, où c'est des communes très pauvres. Donc les JO, c'est une opportunité. On m'a dit le mot opportuniste, faut arrêter de l'employer, mais de faire des travaux d'aménagement qui ne se seraient pas faits sans. Et tant mieux, peut-être tant mieux que ce soit quand même sur des communes populaires, c'est toujours pas le cas que ça tombe. Mais d'un autre côté, ça engendre surtout beaucoup d'injustices, beaucoup d'exploitation. Et puis après, aussi, ça va asséner des valeurs qui sont vraiment pourries, quoi, sur la compétition, le meilleur gagne. Il y a certainement aussi, malgré tous les contrôles, du dopage. C'est un culte du jeunisme aussi, quoi qu'on en dise. Voilà, donc le sport, déjà, porte en lui un petit peu tout ça. Et les JO, transmettre, puisque c'est un événement mondial extrêmement retransmis, toutes ces valeurs. Donc il y a toujours un vernis, effectivement, qui est la culture, l'écologie, aussi avec des jeux durables, entre guillemets, le sport, l'intégration avec les Jeux paralympiques. Tout ça, en fait, pour faire avaler une pure idéologie, qui est, là je rejoins complètement en fait la position de Jean-Marie Brome, qui est une idéologie capitaliste. Voilà, donc pour parler de culture, voilà, la culture et le sport, on voit bien, hein, ben un peu l'obligation de pour toutes les grandes structures culturelles d'avoir un projet sportif. Je me réfère à un projet que j'ai reçu en tant que prof de PS de la mairie, du théâtre de la commune d'Aubervilliers, donc théâtre de la commune, et originellement un théâtre très engagé. Et le titre de leur projet olympique, c'est « On ne va pas se défiler ». Donc ça m'amuse un peu, parce que on voulait pas trop, mais bon. On est obligé, quoi, quand même, de faire un truc sur le sport. Et si ça se trouve, ça sera vachement sympa. Mais voilà, enfin, c'est quand même, y a un peu une obligation pour les structures culturelles de rentrer dans ce jeu-là si elles veulent vivre, si elles veulent survivre. Parce que bon, le milieu artistique, ça dépend de qui on parle, mais souvent c'est quand même pas une catégorie socio-professionnelle, enfin tout le système des intermittents qui gagne beaucoup. Il y a ce côté-là, et puis après il y a aussi comment on va draguer tout le bénévolat. Dire moi en tant que je m'occupe d'une association qui a pas une façon de fonctionner qui est professionnelle, c'est-à-dire que je ne vis pas de mon art, on a plein d'appels à faire partie d'une grande déambulation, d'un grand et de manière bénévole, comme ça rejoint tout le côté appel aux bénévoles aussi pour assurer la sécurité au JO. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu exactement à la question initiale.
La question initiale, c'était de savoir si la danse était plutôt du sport ou de l'art.
Ah oui,
c'est pas grave, vous m'avez emmené vers quatre questions différentes. Et je questionne la membre du corps enseignant que vous êtes. Vous parlez d'un vernis qui sert de légitimation, plus ou moins. En tout cas, le terme de vernis, vous l'avez employé. Et quand on sait, par exemple, que je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais qu'un certain nombre de jeunes arrivent au collège sans savoir nager, par exemple, un budget, vous êtes prof de PS, comment vous réagissez à ces différences entre
c'est un scandale, il ne faut pas que j'en dise trop, là, précisément, à l'île Saint-Denis, on est une île, on est une des seules communes fluviales de France. Et puis bon, les JO nous le disent, hein, il faut revenir vers le fleuve. Puis c'est sympa de nager dans la Seine, c'est ultra sympa. Pour des non nageurs, parce qu'à l'île Saint-Denis on n'a pas de piscine, donc il y a très peu de moyens. Effectivement, il y a quand même. On nous dit bon, il va y avoir des piscines qui vont se construire. Mais on est sans arrêt en train d'attendre qu'on puisse amener des enfants pour, on va dire même trois. Jamais on a eu trois cycles d'enseignement de natation pour les élèves. Et puis les installations qu'on construit, c'est des installations surtout de sport spectacle. Donc là, on revient sur le côté spectaculaire. C'est pas vraiment des installations, pour la pratique. Évidemment que le bassin olympique, on va pouvoir faire de l'apprentissage de la natation dedans, j'espère bien. Mais l'espace occupé, j'ai pas les plans, mais je pense que les deux tiers, c'est quand même pour les gradins, les spectateurs. Donc c'est très symbolique, mais c'est vrai que Moi, je trouve ça assez, enfin, presque scandaleux.
Aucun engagement de la mairie ou des élus, des promesses, des déclarations sur cet exemple très précis de la piscine qui parlera à tout le monde.
C'est les moyens. En fait, c'est juste les moyens mis en place. Après, la piscine, je crois que c'est une société privée, hein, la piscine. La piscine olympique, c'est une société privée qui va la gérer, donc elle sera même pas dans le pot commun de pleine commune, cette communauté de communes, qui s'organise néanmoins pour essayer ensuite de mutualiser un certain nombre de piscines qui vont être rénovées, pour voilà, essayer au mieux de gérer la pénurie. Mais il y a une vraie dissonance entre ce qui est même dans les textes, où normalement à chaque niveau de classe il devrait y avoir un cycle de savoir nager, et la réalité où voilà, on va dire sur 7 ans entre les maternelles et les primaires, hein, si les élèves ils ont eu 2 cycles de natation, c'est bien déjà, quoi.
Et ça m'amène à ma question que vous avez en partie introduite. Vous avez évoqué très rapidement Jean-Marie Brome, donc, qui est critique de l'idéologie du sport depuis les années 70. Et nous recevions un de ses anciens partenaires de crime, Marc Perelman. On a eu certaines réactions interloquées d'auditeurs qui étaient surpris de la découverte de cette idéologie, tant le sport est un fait incontestable, paré de toutes les vertus. Est-ce que vous pourriez un petit peu, non pas résumer, mais donner un petit peu de grain à moudre à l'auditeur pour mieux comprendre en quoi le sport est une idéologie?
Je vais essayer d'être assez brève. Je pense que le sport, on peut tout mettre dedans. Le sport dont je parle, c'est le sport peut-être au sens strict, c'est-à-dire un sport qui est à la fois compétitif, qui est une pratique physique et qui est aussi structuré avec des fédérations. Voilà, moi c'est ce que j'appelle sport. Donc faire un footing sur le bord du canal Saint-Martin, c'est pas ce sport-là au sens strict. Jean-Marie Brome, moi je l'ai connu quand j'étais étudiante, et pourtant je suis pas toute jeune. Ça fait partie déjà de l'histoire du sport, de l'histoire récente sur le courant antisportif. Dans les années 70, il y a eu plein de modèles nouveaux qui ont émergé. C'est au moment où finalement le sport a rencontré les sciences humaines. Et il a commencé à y avoir une réflexion sur justement quelle valeur le sport défend. Il y a eu plusieurs courants. Le courant pro-sportif, il y avait à ce moment-là aussi le modèle des pays de l'Est, hein, qui eux faisaient valoir leur, c'est complexe parce qu'ils faisaient valoir le, je dirais l'intérêt de leur modèle au niveau justement des grandes rencontres sportives en disant bah le sport c'est le progrès humain, voilà. Donc il y avait des gens très à gauche qui étaient complètement pro sportifs et il y avait dans l'histoire le courant qui était encore sur une éducation physique qui était pas complètement sportive, qui était plus on apprend à faire des exercices de pour être en bonne condition physique, donc c'était un peu l'ancien modèle. Et il y avait d'autres courants, il y avait le courant antisportif et un peu proche le courant par exemple d'expression corporelle aussi, qui il y avait vraiment c'est de l'ici et maintenant, c'est-à-dire on s'exprime, on s'épanouit, on se fait du bien. Il y a la notion de plaisir aussi qui est apparue, qui était complètement nouvelle à l'époque. Donc il y a eu voilà, tous ces courants assez intéressants. Beaucoup de réflexions autour. Ben, il y avait aussi Jean Vigarello qui a des thèses très novatrices sur le sport, donc Jean-Marie Brome. Et puis en fait, dans les années 80, il y a eu un retour en arrière, comme dans pas mal, il me semble, de pratiques ou de courants culturels, avec pour l'éducation physique la nécessité d'évaluer les élèves, de leur mettre une note pour montrer qu'on est bien dans l'éducation nationale, qu'on nous aussi on participe à ce système de sélection. Et à ce moment-là, on est revenu sur des pratiques mesurables. Voilà. Et le sport, c'est assez mesurable.
D'accord. Je vous remercie pour ce résumé. Alors, avant de plonger dans votre article, j'avais une dernière question pour vous. Mais la danse requiert quand même un corps affûté. Et comment votre rapport au corps a pu modifier peut-être vos recherches? On y reviendra dans une deuxième partie d'émission. La danse à haut niveau requiert un corps d'athlète. Et comment vous arrivez à... Peut-être vous fréquentez des danseurs de haut niveau.
Alors, je ne sais pas si on peut... Est-ce qu'on parle de danseurs de haut niveau ? Est-ce que ce n'est pas un terme qui vient directement du sport ?
Très bonne question.
La danse contemporaine, oui, ça requiert un corps affûté. Mais affûté surtout au niveau sensible. Donc des questions d'écoute, des questions de sensibilité. En fait, il y a ce qu'on oublie, parce qu'en fait, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que le sport écrase le corps. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a tout un pan de la personne et du corps et la personne humaine qu'on oublie de travailler, c'est le côté sensible. C'est cette notion de sentir. Pour moi, un danseur, c'est un expert en sensation. Voilà. Donc peut-être que le danseur de haut niveau, c'est quelqu'un qui est à haut niveau de sensation. Alors nous, on a toujours l'image un peu du danseur de l'Opéra de Paris, de la danse classique, qui est une danse performative, qui est une danse de personnes jeunes. On pourrait parler de la danse classique, et moi je crache pas sur la danse classique, il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce type de danse, mais c'est une danse quand même archaïque au niveau de ses valeurs aussi, puisque ça vient de la danse baroque, du roi, d'une danse de façade. Et ce qu'on sait aussi, c'est que maintenant que l'opéra s'ouvre à la danse contemporaine, les compagnies de danse contemporaine qui passent à l'opéra sont des compagnies où il y a de la performance, où on va monter la jambe haut, où ça va fuser, où ça va partir dans tous les sens dans l'espace. Et voilà, ça correspond aussi à une envie, moi qui enseigne à des jeunes. Je sais que moi, la découverte de la danse comme pratique sensible, je l'ai eue avec une... J'étais jeune, mais avec pas... J'étais, enfin, sans doute pas au lycée, donc... voilà, est-ce que c'est un terrain en friche, parce qu'on ne sait pas vraiment si les élèves, les enfants sont comment dire, si c'est bien pour eux en fait de développer leur sensibilité, s'ils ont juste besoin de bouger. On a un peu des a priori sur qu'est-ce qu'on doit développer chez l'enfant. Est-ce qu'on doit juste faire en sorte qu'il soit moins sédentaire, donc le faire bouger, à ce moment-là on fait du step. Est-ce qu'on doit le rendre créatif au niveau de ses mouvements? Est-ce que un enfant de 10 ans, c'est dans son tempérament d'aller travailler une intériorité, travailler une sensibilité? On ne le sait pas, parce qu'en fait on est toujours sur ce modèle du corps qui est performant et qui développe des activités qui sont mesurables. Parce que le sensible, c'est personnel et ça ne se mesure pas.
Eh bien, nous y reviendrons largement. Un sport qui écrase les corps, c'est passionnant, et ça nous amène au cœur de notre sujet. Donc, Akile, vous êtes l'auteur de l'article sur les Olympiades culturelles, on le disait, à retrouver dans notre numéro d'hiver. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce thème, donc, pourrait-on dire périphérique, au vu de son espace médiatique, somme toute très réduit? Vous avez décidé de vous attaquer à ça.
Le sujet, en fait, m'a été apporté, on va dire. On me l'a présenté en me disant que ça pouvait être intéressant d'aller creuser de ce côté-là, notamment parce que, alors c'est un peu du bouche à oreille, en fait, et on m'a dit notamment que, par exemple, des centres d'animation devaient absolument suivre un programme qui incorporait des éléments propres aux Jeux Olympiques, etc., sous peine de perdre leurs subventions, etc. Et du coup, pareil, un peu le même discours pour les théâtres, j'ai eu des bruits comme quoi certains théâtres allaient perdre leurs subventions ou ne pouvaient pas programmer certaines choses qui seraient trop critiques des JO. Et en fait, en creusant un peu, j'ai compris, on s'est rendu compte un peu en construisant l'article, que c'était pas aussi simple que ça, c'était pas aussi évident. Enfin, c'est pas une censure directe de l'État ou de la mairie de Paris qui oblige ces acteurs culturels à ne parler que de sport ou à faire absolument des œuvres qui sont en lien direct pour faire la promotion des Jeux Olympiques sous toutes les formes. Mais c'est beaucoup plus insidieux, implicite. Mais en fait, les résultats concrètement sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que, notamment, on va pousser tous les financements en fait qui vont être donnés sur une thématique en particulier, et notamment là, je cite une personne qui travaillait dans une institution culturelle du nord-est parisien qui elle s'est retrouvée en fait qui a quitté son travail parce qu'elle en avait marre en fait de travailler que sur la thématique du sport. En fait, on n'a pas imposé à cette institution de travailler sur la thématique du sport, mais c'est juste que pour en fait se faire bien voir des financeurs, continuer à trouver des financements pour faire vivre la structure, etc. La structure délibérément a choisi d'elle-même en fait d'aller sur ces thématiques-là. Et du coup, on a fait son programme, enfin sa direction artistique sur les quatre dernières années qui ont précédé les Jeux Olympiques qui arrivent. Et de fait, en fait, ça amène un peu, voilà, une forme d'autocensure qui va fermer un peu tous les modes de production artistique et toutes les choses qui peuvent être mises en place autour de la culture et sur un assez large périmètre, puisque du coup, les Olympiades culturelles se font sur toute la France. Après, c'est sûr qu'il faut voir aussi comment les acteurs culturels s'en saisissent. Souvent, ils essayent de pervertir ce dispositif pour réussir à trouver de l'argent, mais tout en continuant à faire leur programmation.
Il y a aussi... Vous avez rencontré des gens qui pratiquaient
pas directement, mais j'ai entendu effectivement. Enfin, c'est des choses qui ont pu m'être rapportées. Et puis il y a le sujet de certaines productions en fait qui étaient déjà dans les tuyaux, on va dire, des productions artistiques où on va en fait légèrement modifier certaines choses pour que ça colle et que ça puisse rentrer un peu dans certains dispositifs et répondre à des appels à projets. Mais après, globalement aussi, il faut voir. Enfin, c'est un peu ce que je disais au départ sur ce dispositif qui recense. Donc, en fait, le débouché des Olympiades culturelles, c'est une grande plateforme qui est mise en ligne et du coup qui recense sur Internet tous les projets en cours. Donc, et du coup, c'est juste de la visibilité.
Oui, qui est présentée comme la seule rémunération des projets artistiques. Enfin, une des principales sera la visibilité.
C'est ça.
Ce qui est tout de même...
C'est assez cocasse.
Bien payer le loyer, la visibilité.
C'est assez cocasse, surtout pour des... notamment des institutions qui n'ont pas forcément besoin de visibilité pour certaines et d'autres... d'autres en fait qui vont pas se retrouver qui vont pas gagner en visiteurs sur cette plateforme. Donc il y a eu quelques appels à projets vraiment qui ont émané directement des Olympiades culturelles et puis le reste en fait c'est l'État directement qui a fléché un peu sur le sujet du sport, etc. Mais sans que ça soit très clair et qu'on ait des chiffres précis, des budgets notamment qui soient mis par le ministère de la Culture, etc. sur le sujet du sport.
On peut peut-être continuer avec les propos de Dominique Hervieux, qu'on a déjà cité deux fois depuis le début de cette émission, donc directrice culturelle du comité d'organisation des Jeux, qui se félicite, elle, de dire que le désir est la clé de tout et que la très bonne nouvelle, c'est que les artistes ont le désir du phénomène olympique. Alors, est-ce qu'on est dans le terrain de l'hyperbole, du fantasme ? Est-ce que vous avez croisé beaucoup d'artistes qui désiraient ce phénomène olympique ?
Non, pas particulièrement. Après, j'ai pas été amené à parler directement beaucoup avec des artistes. C'était plus des directeurs de centres ou des personnes qui travaillent un peu dans la production culturelle, on va dire, mais pas des artistes directement. C'est sûrement un effet d'annonce, une recherche de performativité, je pense, dans le langage qu'on dit. On pense que les artistes sont derrière les Jeux Olympiques, etc. Enfin, on les force, on les contraint financièrement, on leur tord un peu la main pour qu'ils aillent du coup sur ces thématiques-là. Mais c'est pas non plus quelque chose qui est ressorti de manière flagrante, qu'il y avait un véritable désir, une véritable attention là-dessus.
C'est vrai, je sens votre désir d'intervenir.
Je pense que ça fait partie de la professionnalité d'un artiste, en fait. Donc, c'est facile de dire le désir pour les Jeux Olympiques est là. À partir du moment où l'artiste, il s'est dit « Ok, je bosse là-dessus », eh ben, il va avoir du désir. Après, peut-être que dans un mois ou deux, quand le truc sera passé, il dira « Bon, c'est un peu pourri ce projet, mais je l'ai fait ». Enfin, moi, qui ai l'habitude de travailler parfois avec des artistes, quand ils sont dans un projet, eh ben ouais, ils le font avec désir, parce que je trouve que c'est la base du boulot artistique. On n'imagine pas quelqu'un qui est sur scène et qui pense trop à son repas. Enfin voilà, je pense que c'est normal qu'il y ait du désir quand ils sont engagés dans un projet. Mais sauf qu'au début, je pense que ça aurait pas été leur choix. Leur choix, il a été un peu contraint. Ouais.
Et après, certains, et je crois que vous le releviez dans votre article, déploraient un peu l'absence le consensus total dans l'approche artistique du fait sportif. C'est toujours la saine compétition, souvent l'inclusivité, le courage, l'abnégation, ont toujours un petit peu les mêmes notes de violon. Quel regard vous portez-vous sur la diversité réelle des projets artistiques, là, dans ces JO, où tout est quand même fait pour vendre l'événement. Je n'ai pas d'autres termes.
Effectivement, c'est aussi la critique qui est faite sur ce... Parce que sur ce projet d'Olympiade culturelle, parce qu'effectivement, on pourrait dire « Ok, pour parler de sport, ok, pour parler mêler les thématiques du sport et de la culture pour en faire émerger de nouvelles choses. » Mais il y a besoin aussi de pouvoir exprimer des aspects critiques, notamment sur l'écologie, on en a parlé, sur le sujet de l'argent, etc. Et en fait, malheureusement, c'est pas possible, puisque les projets doivent être labellisés, c'est très cadré, Dominique Carvieux le dit, tout est contrôlé par le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui s'assure que la communication va pas de travers, on doit pas froisser l'idéal olympique, on doit pas pouvoir émettre ne serait-ce qu'une seule critique sur ce qui va se passer sur l'été prochain à Paris. Et du coup, il y a vraiment une seule direction dans laquelle aller, c'est celle d'une reconnaissance sans frein de l'aspect merveilleux des Jeux Olympiques.
Je ne vais pas vous poser de questions pièges dans des coulisses que vous n'avez peut-être pas visitées, mais du coup, sur ce label, est-ce que vous avez assisté à du comité de censure, mais une œuvre qui aurait été un petit peu trop... sensible, Séverine, si vous voulez intervenir.
Je pensais juste à un épisode historique. C'est pas que je montrerai mon érudition, mais Rudolf von Laban, qui est considéré comme un des théoriciens de la danse moderne et contemporaine, lui, il avait inventé un système d'écriture de la danse, la Laban notation, et il avait inventé des danses chorales, parce que comme il n'y avait pas la vidéo, tout ça à l'époque, donc il écrivait des partitions, il pouvait l'envoyer à des groupes de danse, et ça faisait, donc il pouvait faire participer des événements avec 500 personnes, donc ça a intéressé Goebbels, la personne qui était chargée de la publicité du régime nazi, ministre de la propagande. Et voilà, sauf que Laban, il avait aussi écrit une pièce, parce que Laban a monté Verita, il a aussi traîné avec des anarchistes, avec les premiers naturistes, etc. Donc... il avait aussi sans doute des pièces un peu moins qui brossaient moins dans le sens du poil, qui brossaient pas dans le sens du poil le régime nazi, et finalement sa pièce a été censurée et n'est pas passée, donc ça a été le début de la fuite. Finalement il a émigré en Angleterre, puisqu'il travaillait aussi avec un certain nombre d'artistes qui étaient juifs. Donc là, il y a eu censure maintenant dans ce contexte des JO de 36. À notre époque, je sais pas.
Parce que là, on parle d'une censure politique, un régime qui ne veut pas qu'on encense le régime d'à côté ou le régime opposé. Mais Achille, ce que vous dites, c'est que c'est même une absence de critique de toute remise en cause du fait sportif, de ne pas présenter sous le meilleur jour possible l'olympisme. On va presque plus loin, du coup. c'est même pas une critique politique, c'est toute critique est à proscrire.
Oui, effectivement, c'est ça. Après, les critères de sélection des projets sur les qui peuvent être labellisés Olympiades culturelles, ils sont pas du tout publics. Le processus de sélection, il est plus ou moins détaillé sur le site internet, mais enfin là, ça rentre pas non plus spécifiquement sur les différentes étapes internes au comité d'organisation qui précise du coup comment, qu'est-ce qui ferait potentiellement qu'un projet ne serait pas sélectionné. Après, je suis pas allé éplucher chacun des projets pour voir à l'intérieur ce qu'il en disait et ce qu'il y avait potentiellement un aspect politique critique qui pouvait être porté, mais enfin globalement tous les projets que j'ai vus, c'était pas le cas du tout. Et puis après il y a sans être lié directement aux Olympiades culturelles, notamment il y a ce directeur de centre d'animation que je cite. On est un peu dans la même logique, du coup, lui dépend plus ou moins de la mairie de Paris, et la mairie de Paris, du coup, l'a incité très fortement à faire un programme autour des Jeux Olympiques, etc. Et du coup, il a décidé spécifiquement d'avoir une programmation un peu critique, d'inviter des collectifs, notamment qui ont cette vision-là, comme Saccage 2024, etc. Et du coup, il n'a pas été censuré pour autant, mais il sait que potentiellement, ça peut être compliqué. Enfin, la limite est très floue, mais voilà, il n'y a pas de, c'est pas non plus une censure directe. Mais il faut qu'il fasse attention sur ce qu'il fait parce que il sait qu'il peut être appelé à des moments, etc. Et en fait, c'est là où c'est compliqué. Enfin, ça revient un peu à ce que je disais au départ, c'est que c'est très insidieux, c'est que. En discutant avec lui, il est un peu revenu sur le fond de tout ça, de l'évolution aussi des centres d'animation, etc. Et c'est qu'en fait, pas qu'autour du sport seulement, en fait, on peut élargir ça aux autres sujets, mais que c'est la portée politique, en fait, de ces centres-là qui a peu à peu disparu, en fait. Puisque notamment, avant, c'était aussi des espaces de discussion, de rassemblement pour échanger des idées politiques, etc. Et ça devient des espaces de consommation, de loisirs. Et c'est là, du coup, on peut élargir et tirer le fil à l'évolution de la société. Et on se rend compte que voilà, la critique politique peut avoir tendance à baisser. Quoi.
Très bien. Je vous remercie pour votre travail. On va marquer une courte respiration musicale avant d'entamer la seconde partie de notre émission avec un son hors du monde, en tout cas des classifications humaines que j'ai eu la chance de découvrir de ma première arrivée dans les locaux de Radio Libertaire. Je vous laisse juge d'une étiquette possible. J'ai nommé le groupe Dissonance Collective avec Down in the Valley. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, toujours sans pub et toujours sans hiérarchie pour l'émission Du Chiffon, le journal indépendant de Paris et sa banlieue, en compagnie de Séverine et Aquilée, respectivement fondatrices d'une compagnie de danse pluridisciplinaire, entre autres, et un jeune reporter en herbe. Après la critique des Jeux Olympiques et de l'idéologie du sport, vient le temps de contrer la doxa dominante autrement. Et notre invité propose une autre approche du corps par son vécu, son action et son travail auprès de la jeunesse. Séverine, je me tourne vers vous. Tout juste revenu de ce disque onirique que j'espère vous avez apprécié, pour vous interroger. Alors que nous prenions connaissance de votre profession de foi en début d'émission, dans notre monde actuel, la quête de l'énergie vertueuse, performante et inextinguible est omniprésente. Vous vous êtes consacré à la recherche universitaire sur le concept d'énergie en danse contemporaine. Est-ce que vous pourriez introduire l'auditeur aux fruits de vos recherches, s'il vous plaît?
Oui, c'était parti d'un mot qui m'intriguait, qui était très à la mode, c'est le mot énergie, c'est-à-dire, là tu es bien dans l'énergie, non là tu n'as pas la bonne énergie, c'est bien ce que tu fais mais tu n'as pas la bonne énergie, donc et ça voulait un peu tout dire et rien dire, donc voilà, il y avait donc un travail à faire d'un groupe de recherche sur la terminologie. Et je me suis intéressée justement au sens de ce mot, qui est un sens, qui est un mot qui n'a pas de sens, en vrai. Je pense que c'est le seul mot le plus vide, comme, c'est un petit peu comme l'énergie, c'est parfois de la matière, et parfois c'est juste une onde en matière de physique. C'est plutôt un attracteur sémantique, c'est-à-dire qu'on... C'est intéressant si on arrive à savoir ce qu'il agrège autour de lui. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, plutôt que de parler « tu es dans la bonne énergie ou pas », c'est d'arriver à qualifier cette énergie. Donc je parlais de Laban il n'y a pas très longtemps. Je dis que c'est un théoricien de la danse parce que lui, avec le temps, l'espace, le poids et le flux, il a réussi à faire un éventail de qualité d'énergie. Donc, ton énergie, c'est plutôt fouetter, frapper, tapoter, flotter. Voilà. Donc, là, on est sur des choses un peu concrètes. Voilà. Donc, il y a l'énergie quantité, il y a l'énergie qualité. Mais il y a toujours un mystère autour de ce thème énergie parce que, c'est le nom de cet auteur m'échappe, mais qui était lui psychanalyste et dans la psyché, je dirais que la pulsion de base c'est physiologique et puis dans la physiologie la pulsion, enfin le substrat de base c'est la physique. Donc il interroge un physicien, on lui dit mais évidemment qu'est-ce que c'est l'énergie? Et le physicien lui dit mais on sait faire des tas de choses avec l'énergie, on sait faire des bombes atomiques, mais ce que c'est fondamentalement, on ne sait pas. Voilà, donc c'est aussi assez joli parce que ce terme-là, ça raccroche peut-être à du spirituel, à quelque chose qui est en tout cas insaisissable.
J'espère que l'auditeur est bien réveillé à cette heure-ci pour cerner ce que vous expliquez. Et j'aimerais lui faire découvrir une belle notion que j'ai découvert en me promenant sur le site de votre collectif. Est-ce que vous pouvez définir ce que vous appelez les énergies subtiles des espaces du dedans? Et j'ai trouvé ça...
Ouais, alors je parlais d'intériorité tout à l'heure. L'espace du dedans, c'est aussi le titre d'un recueil de Henri Michaud, qui est un poète que j'adore. Quand je parle parfois aussi à mes élèves, il y a l'espace scénique, il y a l'espace de la kinésphère, il y a l'espace de la peau peut-être, et l'espace du dedans, c'est pas simplement ça va pas être les viscères, mais c'est aussi l'intention, les images qu'on peut avoir, donc en fait où l'imagination va rentrer en contact avec le corps sans passer par le contrôle mental. Voilà, donc Je ne sais pas si on l'a dit, mais dans ma formation de danseuse et dans ma pratique de la danse, je parle de danse buto, qui est une danse japonaise, enfin, qui vient du Japon, mais qui est une danse contemporaine quand même. Et dans cette danse, on cherche à couper justement ce contrôle. Il y a un de mes maîtres, entre guillemets, qui s'appelle Masaki Iwana. Il avait un petit lecteur de cassette à l'époque. Il enlevait la cassette et il montrait le lecteur sans la cassette. Et il disait, bah, voilà, la danse, c'est ça, c'est-à-dire vous enlevez le mental. Alors, comment on fait ? Il y a plusieurs techniques, mais en fait, à certains moments, il y a vraiment une interface qui est super intéressante à explorer entre la sensation et la motricité. On fait un mouvement qui est répétitif et surtout qui est un peu, je sais pas, une rotation et qui se nourrit un peu de lui-même dans un sens et dans l'autre. Au bout d'un moment, ça diminue tellement au niveau de la trajectoire dans l'espace qu'on sait plus tellement si c'est de la motricité ou si c'est de la sensation. Et quand on écoute cette sensation, bah, ça peut nous amener ailleurs. On est en train d'improviser, mais on laisse vraiment suivre le corps. Voilà, on guide rien. C'est une façon de danser. Hein, c'est pas du tout comme ça. Enfin, c'est pas de la danse classique. Après, maintenant, les danseurs classiques, ils ont aussi une formation qui est un peu plus subtile, qui est un peu plus sensible. Donc, ils vont peut-être aller travailler ce genre de motricité là également. Mais voilà un petit peu l'espace du dedans, c'est comment la sensation, l'imagination rentrent un peu en confluence.
Enlever le contrôle, tout à l'heure vous parliez de la critique de l'idéologie du sport, le critère de la quantification de tout. Qu'en est-il, et je m'adresse au professeur d'éducation physique et sportive, qu'en est-il de vos jeunes élèves? Vous voulez les libérer? Est-ce que vous les sentez contraints?
Je souris parce que je viens de quitter presque là une séance de step où il faut, ça a un intérêt, hein, monter, descendre une marche. Moi, je veux pas que je les fais mettre dos au miroir parce que sinon c'est trop. Je m'étais dit que jamais de ma vie j'enseignerai le step. Et je me trouve enseigner le step parce que c'est dans le programme, mes collègues, l'équipe, etc. Et surtout aussi parce que il y a 30 élèves et que c'est pratique parce qu'on est dans un mètre carré et parce qu'on peut mesurer. Et ce qu'on mesure, c'est le rapport entre la pulsation, les BPM, donc on met des grosses musiques, tout, voilà, et la fréquence cardiaque. Et donc là, c'est des choses qu'on mesure et donc on demande aux élèves d'avoir un contrôle sur leur fréquence cardiaque et comme ça, elles ou ils savent qu'ils vont pouvoir perdre du poids ou plutôt travailler leur cardio. Voilà, on en est là. Enfin, on est vraiment dans des activités de mesure qui sont censées quand même donner une autonomie à l'élève. Une fois qu'il sera plus en cours, il pourra lui-même faire un footing et savoir si il perd du poids, si voilà. Donc on est dans ces pratiques mesurables. Quand je disais que l'éducation physique, on est resté dans le mesurable. Et après, parce que la décharge, moi là je critique, je vais vous dire, c'est une pratique qui marche. Ça me navre un peu, mais auprès des élèves, c'est une pratique qui marche. Je suis en lycée. Est-ce que c'est parce qu'avant, on ne leur a pas fait visiter autre chose? Mais c'est difficile hein, de laisser l'autonomie tout de suite, tout le temps. Voilà, enfin, ex abrupto, on peut très vite se faire déborder. C'est-à-dire que c'est guider les élèves dans quelque chose de sensible. Je peux pas vous dire si c'est parce que ils ont déjà une engrammation culturelle qui fait que pour eux c'est bizarre ce qu'on fait là. Ouh là là là, elle nous fait faire n'importe quoi. Donc du coup ça va être la bordélisation tout de suite, ou si c'est parce que voilà, c'est, je sais pas, enfin voilà, il y a quand même aussi des résistances de la part des élèves à aller vers des pratiques qui sont plus libres. Enfin, il y a toute une réflexion à mener là-dessus. Voilà, et c'est pas simple quand on est enseignant aussi à proposer des pratiques plus libres. Et des fois, je me dis, bah, finalement, le step, c'est, enfin, pour moi, c'est pas trop compliqué de l'enseigner. Et c'est un truc qui marche, mais ça me navre un peu quand même.
Donc finalement, vous avez un petit peu de marge de manœuvre, mais qui n'est pas toujours évidente en pratique.
Non,
de la liberté devrait se faire plus tôt, peut-être, je pense
que ça devrait se faire plus tôt. Effectivement, de toute façon, le cadre scolaire, c'est un cadre déjà hyper contraignant. Qui être devant aussi longtemps assis devant une table, enfin voilà, donc déjà voilà, c'est contraignant, et puis on devrait pas avoir 30 élèves aussi, enfin voilà. Après il y a des questions autres, de parce qu'on doit aussi avoir voilà, c'est un peu difficile de parler dans l'ambiance sonore entre un cours de danse et un cours d'éducation physique, ne serait-ce que ça, comment le prof, à quelle hauteur, à quel volume il parle. Dans un cours de danse, il y a même des artistes intervenants, ils chuchotent quand ils donnent leurs consignes. Mais pour l'éducation physique, on crie. Donc, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est aussi parfois l'acoustique? Enfin, voilà, on est dans un endroit grand, on a beaucoup d'élèves. Voilà, donc l'éducation aux sensibles, c'est tout un programme.
Votre compagnie de danse se veut fonder donc sur une autre approche du corps et du temps. Et du coup, je voulais vous demander un petit peu si votre vision du corps avait changé sur les 40 dernières années. Et donc, vous êtes en prise avec l'adolescence. Et est-ce que il y a une manière de s'approprier son corps différente? Enfin, comment ça a changé depuis 50 ans? Est-ce que, alors, je vous demande surtout pas de dire que c'était mieux avant ou autre, hein, mais est-ce que vous vous sentiez plus libre, vous, dans votre approche?
Moi, j'ai cru voir un changement. Je pense que j'ai vu un changement en matière de stéréotypes genrés, quand même. C'est-à-dire qu'au début de mon enseignement, c'était compliqué pour les garçons. Et puis, ça l'est devenu de moins en moins. D'un autre côté, je trouve que les jeunes filles, les femmes, elles ont parfois plus de poids au niveau de l'image qu'elle renvoie ou des stéréotypes que les hommes. Et j'en arrivais à presque préférer à travailler avec des groupes où il y avait que des garçons. Parce qu'en ça, comme il y a en Bobigny, là, il y a beaucoup de garçons. Donc, pour pas qu'il y ait deux filles qui seront dans un groupe, on avait soit des groupes mixtes, soit des groupes avec que des gars. Parce que c'est vrai que la mixité est peut-être pas simple, mais par contre je trouve que sur la mixité il y a encore beaucoup de travail à faire, et les filles elles ont plus de, enfin on sent qu'elles ont un poids par rapport à l'image qu'elles doivent donner, elles osent pas trop explorer, en fait c'est ça qui est. C'est là où il faut justement les aider ou leur proposer vraiment toujours explorer, alors que les garçons sont, ils en ont un peu moins, voilà, ils s'en fichent un peu plus si ce qu'ils font correspond pas vraiment aux normes, ils sont plus libres quelque part dans l'exploration.
D'accord, et si on en revient aux Jeux Olympiques, hein, tout à l'heure, Achille, vous parliez de programmation culturelle qui a eu lieu 4 ans avant ces fameux 15 jours de JO, je crois que ça va durer 15 jours. Est-ce que les programmes scolaires ont été profondément modifiés des années avant les JO pour être sûr d'être...
J'ai eu la surprise en regardant le projet académique donc de l'académie de Créteil, qui avait un des axes du projet qui était, alors je j'ai pas la formule, je serais un peu en mal de me rappeler de la formule exacte, mais qui est sur culture et sport et les Jeux Olympiques. Donc même au niveau de l'académie, il y a un axe, pas un axe principal, mais il y a un sous-axe qui est vraiment les JO. Ça m'a étonnée quand même. Je me suis dit, ah ouais, quand même, ça va intégrer carrément les programmes de l'éducation nationale, en tout cas de l'académique. Et Il y a, oui, il y a des propositions de rentrer dans des projets par rapport aux Jeux Olympiques. Ben, voilà, le programme On ne va pas se défiler. Et je dois dire que j'ai hésité entre... Enfin, j'ai souscrit, c'est-à-dire j'ai proposé à ce que des intervenants viennent auprès de ma population de sportifs d'options EPS qui sont vraiment très pro-sportifs, qui m'ont dit au début de l'année non, on veut pas faire du handball à 4, on veut rester sur le handball à 7 parce que le handball ça se joue à 7 et que l'année dernière, notre professeur il nous faisait des vrais entraînements comme en club, donc ok, donc je me suis dit bon, là il commence à en avoir marre de moi peut-être et du handball, donc je me suis dit peut-être le moment de leur proposer autre chose. Et j'ai ces ateliers qui sont gratuits là pour le coup, c'est de la fraudance, c'est du coupé décalé, des artistes qui viennent proposer une chorégraphie qui est à base de gestes sportifs. J'en profite moi pour essayer de les faire travailler sur le sport spectacle, sur la célébration, sur les JO. Donc voilà. Et j'essaierai aussi de leur proposer un peu une critique aussi de toutes ces notions. Je leur proposerai des thèmes. Donc voilà, c'est un petit peu une entrée, mais je fais un peu un cheval de Troie quoi en acceptant de ce projet-là. Même si au départ, quand j'ai eu la chargée d'action culturelle, je dis, vous savez, moi, je suis pas trop pour les JO. Et puis demain, y a un festival artistique qui va regrouper 360 élèves à Villetaneuse, sur le campus de Paris 13. Et parmi les ateliers, il y a la danse des JO. Voilà, donc ça irrigue un peu quand même tous les projets, oui.
Vous arrivez à récupérer de vos élèves de l'école dans votre centre de danse ou qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune élève qui pour faire la quête de son corps, de sa liberté, et loin des steppes mesurables.
Ouais, il y a toujours eu quelque chose de complètement étanche. Je ne sais pas si c'est pour moi, un besoin, puisque étant dans le milieu sportif, j'ai aussi peut-être un peu le besoin de ne pas mélanger les deux. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est que je pense aussi qu'il y avait rarement cette occasion ou cette possibilité-là. La danse que je propose en atelier, dans la compagnie, c'est une danse vraiment très sensible, très intérieure. Les gens qui s'y intéressent sont des gens qui ont une certaine maturité, je dirais...
émotionnelle.
Oui, alors ça va être peut-être plus des artistes, des gens qui sont plasticiens, qui vont s'intéresser à cette forme de danse, ou acteurs, ou musiciens. Là, j'ai toujours eu affaire avec des gens jeunes, et ceux qui étaient un tout petit peu moins jeunes, c'était quand même à la base des sportifs. Donc je pense qu'il y a quand même encore un fossé. Je dis pas qu'il y a jamais eu. J'ai fait un peu de météorologie du corps avec mes élèves de licence de troisième année. Il y avait je m'octroyais une petite séance où je leur proposais ça. Et généralement ça leur plaisait. Voilà, ça leur plaisait. C'était complètement différent, mais. Après, c'est parce que c'est un peu compacté. Je sais que certains auraient bien aimé peut-être poursuivre, continuer. Mais voilà, les emplois du temps sont très chargés. On n'a pas le temps, pas la place. Donc, globalement, c'est... Alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller à des jeunes élèves ceux qui sont pas déjà qui ont déjà pas un pied dans la danse, c'est d'explorer peut-être pas que la danse mais d'explorer d'autres pratiques. Je pense à l'escalade par exemple où bah oui c'est très gratifiant de monter, mais finalement il y a assez peu de gens qui s'amusent à juste changer de position sur les voies, à avoir une certaine fluidité. Enfin, tout est organisé quand même toujours de manière mesurable, avec des cotations, avec des couleurs. Donc d'explorer peut-être en laissant un peu de côté les gradations, les numéros, les cotations. Et un peu pareil dans le champ de la danse, c'est-à-dire ne pas s'en tenir à une forme. Parce que trouver le projet de mes lycéens, c'est de trouver son style, voilà, d'explorer différents styles pour trouver son style. Et c'est très bien, je trouve, comme parti pris, mais je pense que son propre style, il est toujours à l'interface entre plusieurs styles. Ça va pas être la house, la techno ou le crump, mon style. Mais voilà, enfin, c'est aussi de passer à travers beaucoup de choses pour vivre et surtout penser que l'important, c'est pas tellement la forme extérieure, mais que c'est vraiment les sensations. Et que la beauté, c'est la singularité. C'est pas un canon qui est extérieur, c'est si on est soi, si on arrive à exprimer ce qu'on est vraiment, c'est quand même un accouchement de soi-même, hein. C'est pour ça que c'est peut-être compliqué pour des jeunes élèves, mais quelque chose qui est aussi une ligne, un point de fuite, vraiment un principe de base, c'est que la beauté vient de la singularité.
Est-ce que vous avez retiré de vos recherches aussi sur la notion d'énergie, ces formes d'ondes ?
Est-ce que je l'ai retiré ou est-ce que ça pourrait se traduire dans mes recherches sur l'énergie ? Bah oui, il y a l'universel et puis le singulier. C'est un peu toujours la conjonction entre ces deux notions.
Une réaction à ce qui s'est dit, peut-être une envie de libération, d'arrêter d'être quantifié, je ne sais pas.
Oui, bah après, c'est ça, on a besoin de toutes les formes d'expression et toutes les formes de créativité pour arrêter de trop se limiter. Enfin, mais et au-delà, sur les productions culturelles, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être cette envie-là autour des Olympiades culturelles d'avoir des formes hybrides, un peu de nouvelles créations, etc. Mais c'est pas. Ça n'a pas été en tout cas encensé par la critique et le public n'a pas l'air non plus d'être forcément beaucoup au rendez-vous de ces Olympiades culturelles et c'est des. Encore pour citer une nouvelle fois Dominique Hervieux, mais. Le calendrier sportif prend beaucoup le pas sur ces éléments, ce dispositif culturel en fait, qui a rythmé notamment plusieurs fois l'année. Il y avait autour des journées du patrimoine qui étaient dédiées aux JO cette année. Ça a pu échapper à pas mal de personnes. Et il y a aussi le 21 juin, la journée de la fête de la musique, qui devra avoir un lien aussi avec les JO. Voilà. Donc ils ont essayé de caler les JO et le sport pendant tous les événements culturels qui ont précédé cette année.
Eh bien, vous m'amenez à ma dernière question. Donc, cette actu, voilà, est-ce que vous avez des futurs rendez-vous, peut-être pour faire découvrir votre centre de danse, est-ce qu'on peut venir vous voir, je crois, tous les premiers samedis du mois?
Ah oui, alors j'ai pas mis à l'ordre au jour le site, hein, puisque on est passé du premier, alors on est passé du samedi au vendredi. Alors et c'est tous les vendredis en fait qu'il y a un atelier de météo, de danse météo buto. On groupe un peu les deux à l'île Saint-Denis, à l'école des arts, Frida Kahlo, voilà, salle Pinabauch, c'est au deuxième étage.
Lesoreuses.com pour nous trouver. Encore
oui, voilà. Et y a donc vous pouvez nous trouver sur le site lesoreuses.com, tout à fait.
Et allez, comme c'est une émission avec un format un peu particulier, j'aimerais vous demander votre prochain défi artistique ou quel domaine contribuerait à vous libérer. Et là, je m'adresse à tous les auditeurs qui sont en train de boire leur quatrième café. Enfin, ce serait mon cas si je n'étais pas derrière ce micro. Réfléchissez, sondez-vous. Peut-être que je vous pose une question piège. La prochaine étape de votre libération, vous avez l'air d'avoir travaillé le sujet.
Alors, je ne sais pas si c'est la prochaine étape de ma libération, mais moi, en ce moment, ce sur quoi les Soreuses ce à quoi on s'intéresse, c'est un petit peu le j'aime pas le mot défi non plus, mais en quoi l'art peut être militant. Voilà, ça c'est quelque chose, et le corps aussi, c'est un questionnement qui nous tient à cœur. Ce corps sensible, est-ce qu'il peut faire bouger un peu les lignes? On a des préoccupations écologiques, hein, on parlait d'eau, enfin c'est une thématique, mais je dirais la protection, la sauvegarde du milieu aquatique, ça c'est des choses qui nous interpellent beaucoup, et avec la compagnie on travaille vraiment sur l'eau et sur l'éponge. Et c'est en fait comment dans des événements on s'aperçoit que les événements militants, de plus en plus quand même, ils s'intéressent justement au sensible, à l'artistique. Mais voilà, comment est-ce que donc le corps sensible peut s'intégrer au niveau du militantisme, qui était souvent, je dirais, le slogan, le mot qui avait un peu l'apanage des luttes militantes. Mais voilà, comment le corps sans le mot peut lui aussi être un ferment de lutte.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. On se quitte donc sur le corps sensible. Et vous avez bien eu raison de me renvoyer dans les cordes tout à l'heure. Parler d'un danseur de haut niveau n'a de sens que si c'est un haut niveau de sensibilité. Donc ce matin, c'était l'émission qui défroissait le chiffon. Vous l'aurez compris, refus de la quantification, avoir le courage d'être soi au-delà d'une programmation culturelle univoque. Le journal indépendant de Paris et sa banlieue, au format papier, vous proposez donc ces thèmes de réflexion de bon matin. Quelques heures de lecture et vous voilà le destinataire de dizaines d'heures de travail pour vous informer différemment, sans pression des actionnaires. Pour rencontrer la compagnie des Essoreuses, rendez-vous donc sur l'île Saint-Denis, nous en parlions, l'école des arts Frida Kahlo. Pour nous trouver, nous, le chiffon, dans toutes les bonnes librairies de l'Est parisien, mais pas seulement, la petite et moyenne couronne, comme à la Parole errante ou encore au Mont-en-l'Air, Merlemoqueur, et j'en passe, liste exhaustive sur notre site internet lechiffon.fr. Pour proposer un thème d'enquête, voire pourquoi pas la réaliser vous-même, n'hésitez pas, que vous soyez professeur, chômeur, militant, apiculteur indépendant ou sculpteur sur tôle, écrivez-nous. L'équipe du Chiffon, c'est 3 générations et quasiment 4 qui se consacrent à vous informer autrement. Je rappelle que notre numéro spécial Jeux Olympiques contenait des enquêtes fouillées sur la formation et ou le formatage de la génération JO 2024, une histoire lacunaire du sport, une enquête sur l'enchevêtrement progressif, sport et data, nous aurions pu en parler, ou comment les métadonnées informatiques influencent les performances de nos sportifs, un article illustré sur les ouvriers sans papier qui faisait l'objet de la dernière mission, et en cerise sur le ghetto, un jeu de société tout à fait disruptif pour finir l'émission sur un mot qui fait bien joli. Un bon samedi à toutes et à tous, je l'espère, à la reconquête de vos corps et de ces énergies. Et pour ce faire, quittons-nous avec l'inénarrable Alain Souchon et sa proposition de remixer Ronsard dans sa chanson Ronsard, Alabama, à ciao, bonne journée.
Ronsard, Alabama. Jamais l'homme avant qu'il meure ne demeure. Jamais l'homme avant qu'il meure ne demeure. Heureux parfaitement Car toujours avec la liesse, la tristesse. Car toujours avec la liesse, la tristesse se mêle secrètement, la 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 la, la 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 la. Yeah. la tristesse. Car toujours avec la liesse, la tristesse se mêle secrètement, se mêle secrètement. La 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 la, la 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 la.
Trois têtes, le cœur fait que des têtes à queue. Son premier sommeil, sentinelle céleste sans guérir, veille à l'infini sur la petite. Et toi, soleil, le cœur du ciel, donne tout l'or de ton miel à Marguerite, à la Margot, la reine, la fleur, la pépite. Mémoire un jour me trahit, que reste au moins en moi ton premier cri. Ô Marguerite, ô la Margot, la reine, la fleur, la pépite.
Radio Libertaire 89.4.
Nous étions quatre bacheliers sans vergogne, la vraie crème des écoliers pour offrir aux filles des fleurs sans vergogne. Nous nous fîmes un peu voleurs. Les sycophantes du pays sans vergogne. Aux gendarmes nous ont trahis. Nous ont trahis. Et l'on vit quatre bacheliers sans vergogne, qu'on emmène les mains liées. On fit venir à la prison sans vergogne les parents des mauvais garçons, mauvais garçons. Les trois premiers pères, les trois, sans vergogne, en perdirent tout leur sang-froid, tout leur sang-froid. Comme un seul, ils ont déclaré, sans vergogne, qu'on les avait déshonorés, déshonorés. Comme un seul on dit c'est fini, sans vergogne, fils indigne, je te renie, je te renie. Le quatrième des parents sans vergogne, c'était le plus gros, le plus grand, le plus grand. Quand il vint chercher son voleur sans vergogne, on s'attendait à un malheur, à un malheur. Mais il n'a pas déclaré non, sans vergogne, que l'on avait sali son nom, sali son nom. Dans le silence on l'entendit, sans vergogne, qui lui disait bonjour petit, bonjour petit. On le vit, on le croirait pas, sans vergogne, lui tendre sa blague à tabac, blague à tabac. Je ne sais pas s'il eut raison, sans vergogne, d'agir d'une telle façon, mais je sais qu'un enfant perdu, sans vergogne, a de la corde de pendu, a de la chance quand il a, sans vergogne, un père de ce tonneau-là, ce tonneau-là. Et si les chrétiens du pays s'en vergogne, jugent que cet homme a failli, homme a failli. Ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile c'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu. Ça laisse à penser que pour eux, sans vergogne, l'évangile c'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu.
Le problème poursuivre sa piste, c'est de savoir.